Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission en français du dimanche 25 janvier 2026. Vous êtes avec Marianne Murat, nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les dimanches, nous commençons cette émission avec le personnage qui a marqué l'actualité cette semaine. Le personnage de la semaine, c'est un tennisman suisse en pleine Open d'Australie 2026. Nous avons décidé de mettre la lumière sur Stanislas Wawrinka, qui vient d'annoncer que cette saison serait sa dernière. De ses débuts discrets aux exploits en Grand Chelem, retour sur la trajectoire d'un champion avec Iléana Guillauchon.
Notre personnage de la semaine, c'est Stanislas Wawrinka. Le joueur suisse a marqué l'Open d'Australie 2026 en devenant ce lundi 19 janvier à Melbourne le deuxième quadragénaire de l'histoire à remporter un match en Grand Chelem et en signant ainsi son 159e succès. Réputé pour son revers redoutable, Wawrinka s'apprête à tirer sa révérence. La saison 2026 sera sa dernière sur le circuit. Il a croisé le fer avec les plus grands, Nadal, Federer, Djokovic, les fameux « Big Three », alors à leur apogée, et considéré comme les meilleurs joueurs de tous les temps. Retour sur les moments forts de celui qu'on surnomme Stan the Man.
De représenter mon pays, tout simplement. Pour moi, ça a toujours été un honneur de pouvoir jouer pour la Coupe Davis en représentant son pays, de pouvoir jouer pour les Jeux Olympiques, mais aussi tout au long de l'année ou dans les tournois internationaux, je joue pour la Suisse.
Né en Suisse, dans le canton de Vaud, à Lausanne, Stan Wawrinka grandit à Saint-Barthélemy. Il commence le tennis à 8 ans et il le dit lui-même, il n'a jamais été un prodige. Son niveau, il le construit avec le temps, avec du travail et avec beaucoup de persévérance. Longtemps, personne ne l'imagine en futur grand champion, mais son caractère fait la différence et sa passion aussi. Et c'est ça qui va le mener à ses plus grandes victoires et à une reconnaissance mondiale.
Pour pouvoir être joueur professionnel, je pense qu'il faut être dans les 200 premiers ATP. Pour pouvoir vivre en jouant, mais plutôt être dans les 100 pour pouvoir gagner suffisamment d'argent pour après.
À ce moment-là, Wawrinka est encore loin d'imaginer qu'il ira bien au-delà du top 100. Professionnel depuis 2002, ses débuts sur le circuit ATP World Tour sont compliqués et lors de la saison 2004, il ne remporte pas le moindre match. Son premier titre arrive en 2006 avec une victoire en finale du tournoi d'Umag. C'est en 2008 qu'il franchit un cap, il dispute pour la première fois une finale de Master 1000 à Rome et intègre le top 10 mondial. Le premier grand moment marquant de sa carrière, ce sont les Jeux Olympiques de Pékin. Le 16 août 2008, avec Roger Federer, il décroche l'or en double en offrant une vraie démonstration de tennis. Et cette prouesse lui vaut d'être désigné porte-drapeau de la délégation suisse aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il est souvent installé dans le top 10 mondial, il peine néanmoins à confirmer les espoirs placés en lui, mais le meilleur reste à venir pour l'Helvète. En 2013, durant l'Open d'Australie, la Suisse n'a Dieu que pour un seul de ses joueurs, Roger Federer, classé alors numéro 1 suisse. La presse mentionne à peine Wawrinka, il est alors classé 17e mondial, et personne ne mise $1 australien sur lui. Et pourtant, cette année-là marquera un vrai tournant. Il affronte l'Américain Sam Querrey, réputé pour la puissance de son service, et il s'impose. Il se retrouve alors face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Les échanges sont intenses, des frappes puissantes, des coups précis, parfois audacieux. Le match dure 5 heures. Wawrinka démarre très fort mais finit par céder. Djokovic s'impose et file en quart de finale. Une défaite cruelle mais décisive. Stan fait la une de la presse et décroche le titre de Suisse de l'année. En 2014, la Suisse entre dans l'histoire en remportant la Coupe Davis, la première et toujours la seule de son histoire. Une victoire décrochée en France, à Lille face aux Bleus.
Mais mentalement, j'étais prêt à me battre, j'étais prêt à faire des choses simples et j'explique ça comme je l'ai dit après le Masters. Je veux dire, pour moi, c'était la meilleure préparation possible de jouer aussi bien au Masters, de gagner des matchs, de gagner de la confiance. Quand mon jeu et la confiance est là, le changement sur terre se fait en deux jours et aujourd'hui, je l'ai prouvé que la confiance est là et que sur le terrain, je suis plus fort que lui.
Cette année-là est exceptionnelle pour Wawrinka. Il atteint tout simplement le meilleur classement de sa carrière, une troisième place mondiale à l'ATP. La même année, il remporte l'Open d'Australie en battant Rafael Nadal et décroche ainsi son tout premier titre en Grand Chelem.
Puzzling. It all ends well for Stan. He is the man in Melbourne.
The 24... Roland-Garros 2015. Wawrinka démarre le tournoi contre Lajovic, puis affronte Steve Johnson. Ensuite, il joue Gilles Simon en huitième de finale, et en quart, c'est contre son compatriote Roger Federer, alors numéro 2 mondial. Cette fois, il ne lui laisse aucune chance. Il affronte son gars tête de série numéro 15. Très vite, c'est lui qui prend le contrôle du match. Et finalement, rebelote contre Novak Djokovic, grand favori et vainqueur de l'Open d'Australie 16 mois plus tôt. Et cette fois, c'est en finale qu'il se retrouve. Son short bariolé, ressemblant à un pyjama, fera presque autant parler que le match lui-même. Dès les premières frappes, le niveau est juste incroyable. On voit rarement un spectacle pareil en finale de Grand Chelem. Djokovic s'est retrouvé bombardé du fameux revers à une main que Wawrinka excelle, tous parfaitement envoyés aux quatre coins du court.
Ladies and gentlemen, today he has won his first French Open title, Stan Wawrinka.
C'est une victoire pour le Suisse. À 30 ans, il devient le joueur le plus âgé à remporter le simple messieurs à Roland-Garros depuis Andrés Gomez en 1990.
Jouer contre Novak, c'est toujours un gros challenge. C'est un énorme champion, toujours très fair play. Aujourd'hui, j'ai fait, c'est clair, le match de ma vie. J'ai du mal à y croire, j'en tremble encore et je suis vraiment super heureux.
Il enchaîne avec la victoire de l'US Open 2016, son troisième titre de Grand Chelem, une nouvelle fois contre Djokovic. Difficile de tout résumer, Wawrinka, c'est un titre olympique en double, un titre en Coupe Davis, 16 titres sur le circuit ATP, 3 titres du Grand Chelem et un titre en Master 1000. Wawrinka laisse derrière lui une carrière exceptionnelle, construite patiemment et avec persévérance. Alors que la saison 2026 marquera la fin de son parcours, Stan the Man restera dans les mémoires comme l'un des joueurs les plus courageux et inspirants du tennis suisse et mondial.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
C'est la chanson « La quête » interprétée par Aurel San. On marque une très courte pause, messieurs, dames, une très courte pause de publicité. On se retrouve dans un instant et on va parler du 26 janvier. C'est demain, c'est un jour férié en Australie. Australia Day, ça s'appelle, mais c'est aussi appelé Invasion Day par ses détracteurs. De nombreuses manifestations sont à prévoir dans les grandes villes. Alors, que s'est-il réellement passé ce jour-là, un 26 janvier ? Élément de réponse avec notre collègue Bertrand Tougandamé.
Le 26 janvier, connu sous le nom d'Australia Day ou Fête nationale de l'Australie, est un jour férié dans tout le pays, mais son histoire est loin d'être simple. Pour certains, c'est la fête d'anniversaire de l'arrivée de la Fast Fleet à Sydney en 1788. Pour beaucoup d'autres, notamment les peuples des Premières Nations, cette date représente le début d'une perte profonde, d'un bouleversement et d'une résistance. Beaucoup d'Australiens supposent encore que la Fast Fleet a débarqué à Sinikov le 26 janvier 1788. Pourtant, la réalité est qu'ils ont atteint Botany Bay dès le 18 janvier. Dans cet épisode d'Australia Explained, vous découvrirez l'histoire derrière le 26 janvier, pourquoi cette date est devenue un jour férié et pourquoi elle est comprise et vécue de manière si différente à travers le pays. Vous allez entendre un voyage historique guidé par John Paul Janke, rédacteur en chef des affaires autochtones à SBS et co-animateur de l'émission The Point sur NITV. Il retrace comment le 26 janvier est devenu la date officielle de l'Australia Day et pourquoi la signification continue d'évoluer et de susciter des débats à travers le pays. Alors, où et comment tout a-t-il commencé?
Many see January 26th as a day that commemorates the arrival of the First Fleet at Sydney in 1788 and the beginnings of a nation. But did you know that the First Fleet, a group of 11 ships, had actually started arriving in Botany Bay 8 days earlier on January 18, 1788? Captain Arthur Phillip found Botany Bay unsuitable to establish the new colony.
Plus tard, Philippe et son équipe retournèrent à Botany Bay le soir du 23 janvier et donnèrent l'ordre à l'ensemble de la flotte de faire voile vers Port Jackson immédiatement.
Strong headwinds kept the fleet trapped in Botany Bay, and the next day, the crews were shocked to see two strange ships appear outside Botany Bay. They were French ships under the command of Captain La Perouse. On Jan 25, the weather forced all bar one of the ships to again abandon their efforts. The ship that succeeded was the Supply. Early on the morning of the 26th, Philip and his party rowed ashore. The Union Jack was planted. A little ceremony took place with only a few dozen Marines, officers and oarsmen, while the convicts witnessed it from the deck of the Supply.
Le soir venu, l'ensemble de la flotte avait jeté ancre dans et autour de Sydney Cove, plus de 8 mois après avoir quitté l'Angleterre. Alors, était-ce le début formel de la colonie?
Well, no. It wouldn't be until February the 7th that the new colony is formally founded and Arthur Phillip's governorship is formally proclaimed. The colony included all of Australia eastward, from the meridian of 135 degrees east. This included more than half the mainland of Australia and reflected the line of division between the claims of Spain and Portugal that was established in the Treaty of Tordesillas in 1494.
Et bien sûr, comme l'Australie le reconnaît désormais officiellement, la terre n'était pas inhabitée.
The First Fleet had landed on the lands of some 29 clan groups, whose country stretched across the entire Sydney Basin. The 26th of January was first gazetted as a public holiday for the colony of New South Wales by Governor Lachlan Macquarie in 1818. When it was referred to as First Landing Day or Foundation Day.
Les autres colonies avaient des dates différentes pour célébrer leur fondation. En 1888, le 26 janvier était célébré dans la plupart des colonies comme le Foundation Day ou Anniversary Day.
During the latter part of the 19th century, a group called the Australian Natives Association became a strong lobby group for federation and for celebrating a national holiday on January 26th. The Australian Natives Association was founded by and for the benefit of white native-born Australians.
Beaucoup de gens supposent que l'Australia Day marque la création du Commonwealth, la fédération, mais ce n'est pas le cas.
What the people celebrate on Australia Day is not the coming into being of the Australian Commonwealth. That happened on New Year's Day 1901. And it's not the first sittings of the Parliament of the Commonwealth. That was May 9th, 1901.
Au lieu de cela, la date marque le débarquement en 1988 des officiers marins et condamnés transportés depuis l'Angleterre sur les rives de Sydney Cove. Alors, quand le nom que nous connaissons aujourd'hui est-il apparu?
It was actually during the First World War that the concept of a National Australia Day came about. And initially, it was part of a fundraising plan for the war effort.
Cependant, les événements se sont tenus fin juillet pendant plusieurs années. En 1918, certaines branches de l'Australian Native Association commençaient à désigner le 26 janvier comme l'Australia Day.
In March 1930, the ANA Annual Conference resolved to name the day Australia Day. And by 1935, most Australian states were recognising January 26th as Australia Day, except for New South Wales, which still referred to the date as Anniversary Day.
Mais l'histoire de cette date n'est pas seulement celle d'une célébration, c'est aussi celle d'une résistance. 3 ans plus tard, en 1938, lors du 150e anniversaire du débarquement, les dirigeants des Premières Nations ont organisé le jour de deuil, ou Day of Mourning. Ce fut l'une des premières manifestations nationales pour les droits civiques des aborigènes. Ce n'est que bien plus tard, en 1994, que le jour férié a finalement été aligné au niveau national.
Some states had a public holiday on the 26th of January, while others used the first Monday following. In 1988, the states all marked the bicentennial of Arthur Phillip's Landing as a public holiday. Gazetting of the 26th of January as the Australia Day public holiday finally became uniform in 1994.
L'histoire du 26 janvier est longue, complexe et profondément ressentie. C'est une date qui représente une célébration pour les uns, un deuil, une protestation et une survie pour de nombreux peuples des Premières Nations. Alors que les conversations se poursuivent à travers le pays, comprendre l'histoire derrière cette date fait partie d'un mouvement croissant vers la recherche de la vérité. Cet épisode de Astral Explained a été produit par Nikia Hutchings en anglais et traduit en français par Bertrand Tungandamé pour SBS French.
Clara Luciani qui chante La Grenade. Nous avions rencontré avant les vacances une jeune Française, elle s'appelle Emma Rolando. Elle dirige aujourd'hui la chorale française de Melbourne. Alors si vous voulez chanter, vous amuser, passer du bon temps, rencontrer des Français ou tout simplement parler français, eh bien écoutez cette interview, les cours de la chorale reprennent dans quelques jours.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Notre invitée aujourd'hui, c'est Emma Rolando, une Française originaire du sud de la France qui est venue en Australie il y a 15 ans et qui aujourd'hui a fondé une chorale française. Bonjour Emma.
Bonjour Marianne.
Comment ça s'est passé la création de cette chorale ?
Alors en fait, ça fait à peu près un an que la chorale est créée. Nous avions une chef de chœur, Sylvie Parment, qui a créé l'entreprise en janvier de l'année dernière. J'ai rejoint la chorale en tant que participante. Et je me suis impliquée dans l'organisation au fur et à mesure des mois. Et Sylvie est malheureusement rentrée en France définitivement le mois dernier. Et donc, ma collègue Nez Hardy et moi-même avons décidé de reprendre l'entreprise.
Et vous savez d'où était née cette envie de créer cette chorale ?
Il y a eu beaucoup de demandes, je pense, ces dernières années. Les participantes avaient émis le souhait, justement, de pouvoir se rencontrer et de chanter ensemble. Le problème, c'était qu'il n'y avait pas de chef de chœur. Il n'y avait personne qui pouvait, justement, coacher tout ça. Et donc, Sylvie Parment était impliquée dans la sphère musicale, on va dire, de Melbourne, dans le sens où elle faisait des cours de musique dans les écoles, je crois. Elle a été mise en contact avec une des participantes. Et elle a décidé, donc, de créer cette chorale. Donc c'était le but, était vraiment de rassembler la communauté française et dans le but de pouvoir chanter, s'amuser, se retrouver en français.
Et ça a fonctionné, l'engouement a été immédiat.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on était environ 17 quand on a commencé, donc beaucoup d'intérêt. Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure de l'année, la communauté française, beaucoup de participantes ont eu tendance à rentrer un peu en France, en vacances, etc. Donc, on a eu un trimestre où on avait peu de participantes, malheureusement. Mais vers la fin de l'année, beaucoup sont revenus et on a pu faire notre première représentation à l'école de Brunswick Primary. Et on était environ, oui, je pense qu'on était environ une quinzaine.
Vous parlez de participantes, il n'y a pas d'hommes ?
Pas pour l'instant, on aimerait bien qu'il y ait des hommes qui nous rejoignent, mais on est tout à fait ouvert à avoir des hommes, mais c'est vrai que pour l'instant, c'était que des femmes.
Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que vous vous retrouvez toutes les semaines, tous les mois ?
Tout à fait. Alors, donc, on se retrouve toutes les semaines. Nous avons deux groupes séparés. Les sessions sont des soirs différents dans des quartiers différents de Melbourne, mais nous chantons les mêmes chansons. Donc, nous avons un groupe qui est à Prahran, donc c'est le plus grand groupe. On se retrouve les jeudis soirs entre 19h et 20h30. Et nous avons un autre groupe le lundi soir à Brunswick, qui est pareil, même heure. Et puis, eh bien, on s'échauffe, on se retrouve, on papote un petit peu, on s'échauffe, et ensuite on chante notre répertoire.
Et les auditeurs qui nous écoutent et qui seraient intéressés par vous rejoindre, on peut intégrer la chorale en cours d'année comme ça?
Absolument, absolument. Donc en fait, on accepte tout le monde. Il n'y a pas besoin de savoir chanter forcément. Il faut juste être un petit peu à l'aise avec le français parce qu'on parle toutes plus ou moins français pendant nos sessions. Mais si vous n'avez jamais chanté mais que vous avez envie d'essayer, ça vaut vraiment le coup de venir et puis d'essayer, de voir ce qu'on peut faire. On avait plusieurs de nos participantes qui n'avaient vraiment jamais chanté et à la fin de l'année, on s'est retrouvés à toutes chanter ensemble des chansons super et elles étaient vraiment impressionnées.
Donc, on peut être australien, avoir des notions de français, australien-australienne, avoir des notions de français et vous rejoindre. Je voulais vous
Absolument.
demander, vous avez à plusieurs reprises évoqué votre répertoire. C'est quoi
Oui.
votre répertoire, votre style, musical?
Alors notre style, on chante des chansons françaises. On a chanté à cette représentation Battez-vous du groupe Brigitte. On a chanté Les Champs-Élysées. On a chanté également Ebam de Mentissa. On a aussi des petites comptines aussi qu'on utilise en guise d'échauffement aussi qu'on a chanté comme Vent frais, Vent du matin. Voilà, donc c'est notre petit répertoire et on a plein de projets pour l'année prochaine. On est aussi ouverte à toutes les recommandations, tous les souhaits de nos participantes. On a un groupe où tout le monde partage justement leurs souhaits, les chansons qu'elles aiment et que tout le monde aime. Et puis on vote un petit peu sur les chansons qu'on aimerait bien chanter.
Vous disiez chanter devant un public. J'imagine que quand vous vous retrouvez 2 fois par semaine, vous chantez entre vous. Le public ne vient pas voir vos
Non.
entraînements. Mais l'idée, c'est donc ensuite de se reproduire comme vous l'avez fait à Brunswick récemment.
Tout à fait, oui. Donc nous avons déjà plusieurs représentations qui font partie de la communauté française. En fait, on est déjà en pourparlers avec l'organisateur de la fête de la musique. On parle aussi, on est en contact avec l'Alliance française pour le Christmas Market l'année prochaine. Éventuellement peut-être Bastille Day. Donc on est en contact avec ces organisateurs et on espère pouvoir faire partie de ces événements à partir de l'année prochaine, bien sûr, oui.
Et donc le mot de la fin, si on veut entrer en contact avec vous, on fait comment?
Pour rentrer en contact avec nous, nous avons une page Facebook qui s'appelle Melbourne French Choir. Donc, faites une recherche sur Facebook et une fois que vous nous aurez trouvé, vous pouvez rentrer en contact avec nous et nous envoyer un message. On vous répondra et on vous ajoutera à notre petit groupe avec plaisir.
Là, c'est les vacances scolaires. J'imagine que vous vous arrêtez quelques semaines. Quand est-ce que vous reprenez?
Oui, nous reprenons le 29 janvier au début du premier trimestre.
Merci beaucoup, Emma Rolando.
Je vous en prie.
Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 79 93 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation.
Tout va trop vite, bien trop vite. Tout va si vite, pas si vite. Tout va trop vite,
tout ça peut s'éviter. La réussite, attention. Tout prend du temps, tu sais bien. Prends tout le temps que tu tiens. Tout va bien trop vite, d'ailleurs.
Le duo Jojoa et lieutenant Nicholson qui chantent pas si vite. Hier, on vous présentait la première partie de notre sélection des contenus francophones à découvrir en janvier sur SBS On Demand. Eh bien, si vous avez envie de savoir ce qu'il y a d'autre sur la plateforme de streaming gratuite, eh bien, écoutez cette chronique. C'est la deuxième partie des contenus francophones à découvrir sur SBS On Demand en janvier. Watson SBS en demande. Tous les mois, SBS vous propose une très large sélection de nouveaux films et séries sur sa plateforme de streaming gratuite. Pas toujours facile de s'y retrouver, c'est pourquoi nous vous proposons notre sélection de contenus.
Musique.
Watson, SBS On Demand, c'est un rendez-vous mensuel avec des synopsis, des interviews, des bandes-annonces de films, séries et même documentaires pour trouver quoi regarder sur SBS On Demand. Alors, que retrouver au mois de janvier ? C'est parti ! Une autre comédie, « J'ai toujours rêvé d'être un gangster »,« I always wanted to be a gangster ». C'est un film de 2007 réalisé par Samuel Benchetrit avec des acteurs de renom comme Édouard Baird, Jean Rochefort. Une comédie en 4 chapitres où l'on suit différents protagonistes à la fois drôles, maladroits, bêtes, tendres, grincheux, rêveurs, dans un décor unique.
« J'ai toujours rêvé d'être un gangster » est un film avec des types qui ont des collants sur la tête. Des types qui ont presque des flingues. Une jolie fille.
Bonjour.
Des vieux braqueurs.
Putain, ça a vachement changé.
Une banque. Un parking. Un pistolet. Humphrey Bogart. Un kidnapping. Le parking. Des cascades. Le parking. Une cascade. Des chanteurs qui ont des choses à se dire.
Dès que je pisse, je pense.
Un film d'action. De poursuite. De poursuite pleine d'action. De suspense.
Mademoiselle.
Une seconde, s'il vous plaît.
De règlement de compte.
C'est toi qui me dis d'emballer le mort. Moi, je fais pas équipe avec un mort.
Bah, dis donc, t'es mal élevé, toi. Hein.
Une confidence.
J'étouffe.
Des drames personnels. Jean-Louis Trintignant. Le soleil. Un terrain vague. Des types qui ont presque des flingues.
C'est un pistolet à billes. Regarde.
Ah, t'es con, quoi.
Un vrai flingue. Un zèbre la nuit dans un parking. De la comédie. Des chanteurs qui ont des choses à se dire.
Ah bah, dis donc. Oh là, moi, je...
Ouais. Arnaud.
J'ai toujours rêvé d'être un gangster et unis toute la jeune garde du cinéma français. J'ai toujours rêvé d'être un gangster.
Casey joins the hollow sound of silent people walking down the stairway.
Bon ben, je suis aux toilettes.
J'ai toujours rêvé d'être un gangster, c'est du pur burlesque, un comique de l'absurde, des situations satiriques à n'en plus finir, et c'est donc sur SBS On Demand. On passe au film Hors Saison, Out of Season en anglais avec Guillaume Canet qui joue Mathieu, un acteur cinquantenaire qui habite à Paris et qui est un petit peu perdu. Et Alice, une professeure de piano, quarantenaire, elle vient d'une petite cité balnéaire dans l'ouest de la France. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d'années, puis ils se sont séparés. Depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route, les plaies se sont plus ou moins refermées. Jusqu'au jour où Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d'une thalasso et qu'il retrouve Alice par hasard.
Salut.
Salut.
Ça va?
Ouais, ça va.
Tu fais quoi, toi?
Bon, ça, qu'est-ce que je fais?
Ouais, vas-y.
Je suis comédien.
Tu vas, c'est trop dur?
Ça va.
Est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît? Une deuxième?
Tu vois, le dossier classé.
Ah oui, donc c'est classé, donc on n'en parle plus, en fait. Je peux pas te parler d'un truc qui me rend pas bien, en fait.
Un message pour vous a été déposé à la réception.
Allô?
Allô, Alice?
J'étais pas sûre de te contacter.
Non, je suis très heureux.
Mais je parle toujours aussi mal le français.
Non, mais zéro progrès, c'est quand même fou.
Toi?
Tout va pas bien, mais le tout va bien.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le tout?
Tu vois, ça, les golfs, là. Bon, ça passe après le réchauffement climatique, bien sûr. Ton mari, il sait qu'on était ensemble?
Il sait qu'avant lui, j'étais avec quelqu'un qui m'avait laissé en vrac. Tu prends, tu jettes, tu pars.
Tu veux vraiment que ça se termine comme ça?
Je sais pas. Montre-moi. Comment tu t'excuserais?
Hors Saison, c'est un film mélancolique sur les rapports humains, les opportunités, les regrets, les sentiments. Le scénario est signé Stéphane Brisé et Marie Drucker. Et enfin, on termine avec un film qui va vous faire saliver. Ça s'appelle La Passion de Dodin Bouffant, The Taste of Things en anglais. Il a été réalisé par Tran Anh Hung et c'est une très belle romance historique portée par, encore une fois, un formidable duo, Juliette Binoche, Benoît Magimel. L'histoire au XIXe siècle d'un gastronome et de sa cuisinière qui, au fil des plats, vont tomber amoureux.
Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans?
De lard fumé, des champignons.
Tu vas voir la crème fraîche?
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Et aussi du paprika et on ajoute de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie.
Parlez pour vous, je me sens en plein été.
Je vous le demande encore, Eugénie. Marions.
Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux, à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi?
Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un pot-au-feu de ma composition, avec votre aide.
C'est un peu risqué et audacieux.
Je suis si heureuse et reconnaissante.
Il faut de la culture, de la mémoire pour que le goût se forme. Tu dois te souvenir de ce goût.
Oui, monsieur.
Les potages seront un de caille au coulis de la reine. Pourquoi vous n'avez jamais à table avec nous?
Je converse déjà avec vous à travers ce que vous mangez.
Eugénie, on ne sait pas de quoi souffre Eugénie.
Je me sens parfaitement bien.
Non, vous n'allez pas bien. Je m'inquiète. Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà. Mais vous ne vous êtes jamais eu.
Adapté de La vie et la passion de Dodin Bouffant, Gourmet de Marcel Rouff, le film a reçu le prix de la mise en scène à Cannes. Et pour plus de justesse, eh bien, sachez, petite anecdote de tournage, qu'un chef triplement étoilé a été consulté durant le film, il s'agit de Pierre Gagnaire. Il a lui-même réalisé tous les plats du film pendant la préparation avant le tournage. Et à noter aussi, pour que vous ayez encore plus l'eau à la bouche, eh bien que tous les aliments visibles à l'écran sont réels, ce qui n'est pas le cas sur tous les films ayant trait à la gastronomie. Voilà messieurs, dames, pour notre sélection du premier mois de l'année sur SBS On Demand. D'ailleurs, on vous souhaite une très belle année 2026. Les contenus des mois précédents sont toujours disponibles. Vous pouvez aller écouter le podcast qui s'appelle En décembre sur SBS On Demand. Les films et séries dont on y parle, tout est accessible et gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand. Et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames, et on se retrouve en février pour un nouveau point sur les contenus francophones. Bon visionnage et à très bientôt. Vous vous rendez compte, 22 ans qu'est sortie La Flamme, la chanson de Sly. Allez, on en parlait hier, c'est la rentrée dans quelques jours, l'occasion de faire le point sur les programmes à venir. Direction Perth cette fois, pour savoir ce que nous réserve l'Alliance française.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Le plaisir d'avoir Alexandre Allais, qui est le directeur de l'Alliance française de Perth. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour Jean-Noël et bonjour à toutes et à tous et bonne année également à tout le monde ainsi qu'à vous Jean-Noël.
Merci et nos meilleurs voeux pour l'Alliance française de Perth pour cette nouvelle année également.
Merci. Oui, une année qui va être très, très dynamique mais on aura l'occasion d'en parler.
L'adresse est toujours la même à Netherlands. C'est ça?
Exactement. Oui, Deadlands, tout à fait, sur Broadway.
On pourrait peut-être maintenant parler des rendez-vous réguliers qui vont revenir pour 2026 sur le plan culturel. Je pense au ciné-club, le book-club, les conférences, les cafés scientifiques. Vous avez prévu tout ça, j'imagine?
Oui, tout cela se met en place tranquillement. Il est vrai qu'on est très concentré sur le festival également, en parallèle. Hein. Donc là, nous avons... beaucoup de préparation à ce sujet. Les films clubs à l'Alliance seront suspendus le temps du festival, puisqu'il y aura déjà beaucoup de films à voir en ville. Donc on les reprendra après le festival. Tout ce qui est book club, café scientifique, café conversation reprendront au mois de février, et tous les détails seront disponibles sur notre newsletter. Là, on se concentre également beaucoup sur notre rentrée des cours qui aura lieu dans un peu moins de 15 jours maintenant.
Ouais.
Et donc c'est une offre qui est complètement remaniée, avec des nouveaux cours, des nouveaux formats également, nouvelle durée de session. Maintenant, les adultes notamment pourront avoir trois types de parcours différents, un parcours avec un livre, un parcours sans livre pour les personnes qui sont déjà très bonnes en français et qui sont plus orientées conversation, qui s'appelle le French Fluency Club, c'est un nouveau projet. Et également, on a mis en place ce qu'on a appelé des French Focus Programs, qui sont sur 4 semaines seulement, et qui permettent de traiter de sujets divers et variés, tels que par exemple le festival du film, puisque on a un de nos ateliers s'appelle Parler Cinéma, et pendant 4 semaines donnera l'occasion aux personnes qui le souhaitent de découvrir du vocabulaire du cinéma, les réalisateurs français, mais surtout de découvrir le line-up et d'en parler ensemble et de faire une petite checklist des films à voir ou pas.
Et donc, j'imagine qu'en ce moment, vous avez aussi les cours d'été avant la rentrée du premier trimestre.
Oui, tout à fait, oui. On a lancé d'ailleurs un nouveau concept qui s'appelle Conversation pique-nique à Matilda Bay, et qui invite tous les étudiants de tout niveau à nous rejoindre. Donc l'idée, c'était profiter de l'été et du beau temps pour se retrouver sur les bords de la rivière afin de parler pendant 2 heures, ramener un pique-nique, ramener des petites choses à manger et à boire, et profiter ensemble du beau temps pour échanger en français et se remettre dans le bain avant la rentrée. Tout cela en plus, bien sûr, de nos cours de préparation pour la tare et les camps pour les enfants. Donc on ne manque pas de... On ne manque pas de dynamisme en ce moment à l'Alliance, et on attend la rentrée du 27 janvier avec impatience aussi.
Et donc, Matilda Bay, c'est sur la rivière, à côté de Ned Land, à côté de l'Alliance française.
Exactement. Donc, on n'est pas loin de l'Alliance. Si jamais il ne fait pas beau, on peut toujours plier bagages et revenir dans l'Alliance pour se protéger. Mais bon, là, on est sur une période estivale, donc normalement, il n'y aura pas de problème.
Oui, il fait toujours beau en Western Australia.
C'est ça.
je reviens sur le Festival du cinéma français, oui. Cette 37e édition. Peut-on parler des Save the Dates pour Perth et peut-être pour les autres villes qui vont accueillir ce festival?
Oui, alors évidemment, le line-up est encore sous embargo, donc je ne peux pas le dévoiler pour le moment. Pour nous, la conférence de presse, le Media Lounge, sera le 11 février. Donc là, le 11 février, le line-up sera dévoilé, à Perth en tout cas. Je ne pourrais pas parler pour mes autres camarades des autres alliances, mais pour nous, c'est le 11. On aura comme chaque année des événements spéciaux avec des films qui seront, j'en suis sûr, au goût du plus grand nombre, notamment la Ladies Night, hein, bien sûr, qui aura lieu le 18 mars. On aura le Taste of France également, qui sera le 26 mars. On aura plusieurs Q&A sur des films qu'on a choisis avec beaucoup de précaution, puisqu'ils dévoilent des parties différentes du cinéma français ou des thématiques aussi sociales différentes, qui seront très intéressantes à observer et analyser pour notre public. On aura une Family Session également le 7 avril à Perth, et plusieurs Cine Wine avec des films qu'on a estimés importants à mettre en valeur, avec un événement un petit peu spécial, un petit coupe avant le film pour le découvrir.
Vous avez un projet de projection de film dans les autres villes de Western Australia?
Absolument. On est également partenaire avec Bunbury, le break de Bunbury,
oui.
où le festival est étendu même cette année, puisqu'il y a un jour de plus. Cette année, ce sera du 25 mars au 29, du 25 au 29 mars, au break de Bunbury, avec une sélection de films du festival. Voilà, on est très heureux de renouveler notre partenariat pour la 3e année avec le break de Bunbury.
Quel est le message que vous auriez pour inviter les francophiles, surtout, à apprendre le français en 2026 en Western Australia?
Ah, je pense que le message principal, c'est qu'apprendre une langue étrangère aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons et qui a grandement besoin de culture et d'ouverture d'esprit, je pense que c'est aujourd'hui un indispensable. Apprendre une langue, ça peut servir, bien sûr, dans sa vie quotidienne, si on souhaite travailler dans un pays francophone, et avec la francophonie, on sait que c'est pas ce qui manque, même proche de l'Australie. Et au-delà de cela, pour notre bien-être, pour s'entraîner, pour entraîner notre cerveau, pour être dans une autre perception de la vie et des gens qui nous entourent. Le dire dans une autre langue, c'est le dire avec d'autres mots et le dire avec une autre pensée aussi. Et donc je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour que les francophiles qui nous écoutent se sentent concernés et nous rejoignent dans une dynamique nouvelle en 2026. C'est le moment des bonnes résolutions aussi. Et donc pourquoi pas essayer. Nous avons maintenant beaucoup de nouveaux formats à court, accessibles, qui vous permettent d'essayer, de voir si ça vous plaît et ensuite de vous engager sur le plus long terme.
Merci à vous et à très bientôt sur SBS en français.
Merci beaucoup Jean-Noël, à très bientôt à toutes et tous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bruxelles est la capitale d'un pays qui va mal. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire à travers ces foutus journaux. Ils disent qu'on a le meilleur. Ouais, tout le monde sait faire des efforts.
C'était Roméo Elvis et sa chanson Napeu pour finir cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi, messieurs, dames. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur les plateformes de podcast. Votre prochain rendez-vous avec le français, c'est mardi, même fréquence, même heure. Très belle fin de long week-end et à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.